Radio.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont entretenus hier mercredi à New York. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, les trois chefs d'État ont résolu à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région. Au sud Kivu, des anciens travailleurs de la SNL Bukavu, qui s'estiment lésés dans l'exercice de leurs fonctions, exigent d'être réhabilités dans leurs droits. Ce sont des travailleurs qui ont été écartés de cette société après avoir passé pourtant un contrôle physique. L'invité de ce journal est le professeur Faustin Toengao Lokundo, député national élu du territoire de Bassoko. Il dénonce les tracasseries policières et militaires, l'exploitation illégale des ressources minières par des étrangers, l'absence de l'autorité de l'État ainsi que le manque des routes dans cette entité. Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, les présidents de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Rwanda Paul Kagame se sont entretenus hier mercredi à New York. Selon le communiqué publié à cet effet par la presse présidentielle congolaise, les trois chefs d'État ont marqué leurs préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la RDC, ainsi qu'à leur résolution à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région. D'autres détails avec Alain Rung, envoyé spécial des radios Okapi à New York.
Afin de réussir les conditions d'un dialogue franc et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région et conformément au processus de Luanda, les deux chefs d'État ont convenu d'agir de concert pour obtenir le plus vite le retrait du M23 de toutes les localités occupées et le retour des déplacés de guerre de ces localités à leur domicile, avec l'appui des Nations Unies et de leurs partenaires de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Conférence sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Félix-Antoine Tshisekedi Paul Kagame ont également convenu d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Ces efforts s'inscriront dans le cadre des initiatives régionales de paix existantes, notamment le processus de Nairobi. Cette tripartite intervient quelques heures après le discours du président congolais à la tribune de l'ONU mardi 20 septembre à New York. Devant ses pairs des nations du monde, Félix Tshisekedi a une fois de plus désigné le Rwanda comme l'agresseur de son pays à travers le mouvement rebelle M23.
Notez que le président rwandais Paul Kagame, qui est intervenu hier mercredi devant la tribune de l'ONU, a sur la question de la sécurité dans l'Est déclaré, je le cite, « Il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'Est de la RDC. Il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. Ces défis ne sont pas insurmontables. Nous savons tous que la coopération internationale peut nous permettre de régler ces problèmes qui nous concernent. » Fin de citation. En Ituri, pendant ce temps, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde poursuit à Bunia les consultations avec les différentes couches de la population. Il a échangé ce jeudi matin avec les acteurs politiques, ceux de la société civile et des leaders religieux pour évaluer la situation sécuritaire en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège. Dans son agenda, il va également visiter les différents travaux financés par le gouvernement, notamment la modernisation de l'aéroport de Bunia. Les détails avec Isaac Remuyopi.
Aussitôt après son atterrissage mercredi à l'aéroport de Bunia, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et sa suite notamment les ministres de la Défense et les membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont entrepris des consultations. Il a échangé tout d'abord avec le gouverneur de province et tous les membres du comité provincial de sécurité. Il a ensuite accueilli des députés nationaux et sénateurs élus de l'Ituri venus de Kinshasa. Ce jeudi, c'était au tour des leaders religieux, des acteurs de la société civile ainsi que des députés provinciaux. Rien n'a encore filtré de toutes ces rencontres. Cependant, pour les acteurs de la société civile, la situation sécuritaire en Ituri reste préoccupante avec les multiples attaques des ADF et des exactions des groupes armés locaux. Cela malgré l'état de siège qui, selon eux, a montré ses limites. Ce point de vue est partagé par certains acteurs politiques, surtout de l'opposition. Après ces différentes rencontres, le Premier ministre va visiter certains projets financés par les gouvernements congolais. Il s'agit des travaux d'élargissement et de prolongement de la piste de l'aéroport de Bunia, la construction destruction des bâtiments qui vont abriter l'université de Bounia Tchéré et les futurs bâtiments de l'unité médicale des FARDC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, deux blessés par balle sont déjà enregistrés dans la matinée ce jeudi au cours des manifestations de la population pour exiger la reprise de la cité de Bounagana par les FARDC. Les éléments de la police nationale congolaise voulaient disperser les manifestants qui ont barricadé la route et caillassé les policiers, d'après l'administrateur adjoint du territoire. Les manifestations sont en cours. Des centaines d'habitants des déplacés sont regroupés devant le bureau du territoire au chef-lieu de Rutshuru, Kanda des Champs. Par ailleurs, toutes les activités socio-économiques ainsi que les écoles n'ont pas ouvert leurs portes dans la matinée à Rutshuru Centre et à Kiwanja. Les détails dans ce reportage rendu par Dona Madimba.
D'après la société civile, la police a tiré à balles réelles pour empêcher la population d'accéder au bureau de l'administrateur du territoire où elle voulait faire un sit-in pour exprimer ses revendications. Les deux blessés, dont un jeune homme d'une trentaine d'années, ont été dépêchés dans une structure médicale de la place, indique Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile de Rutshuru. Pour sa part, l'administrateur adjoint du territoire, le colonel Blaise Bimundu, indique que la police est en train de maîtriser la situation. Il confirme que les manifestants ont placé des barricades, brûlé des pneus devant le bureau de l'ATE et ont jeté des cailloux aux policiers et blessé un commandant. C'est en riposte que la police a tenté de les disperser, ce qui vraisemblablement occasionne cet incident malheureux. Rappelons que la société civile de Rutshuru a appelé à la reprise des manifestations et à ne plus payer taxes et impôts pour exiger aux autorités militaires de récupérer la cité frontalière de Bounagana et rétablir la sécurité dans ce territoire.
Nord Kivu encore, lancement ce jeudi à Beni d'un projet de renforcement des mécanismes d'intervention en soutien aux populations dans la prévention et la réponse face aux cas d'exploitation et d'abus sexuels dans l'action humanitaire. Un projet qui sera réalisé par un consortium de quatre organisations intervenant dans le domaine. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Ce projet vise à contribuer dans la prévention des actes d'exploitation et abus sexuels dans les différentes zones de santé de la province de Nord Kivu, notamment les zones de santé de Beni, Butembo, Katwa, Kalunguta, Mabalako, Oisha, Nyiragongo, Rutshuru et Rwanguba. Un projet qui vise le changement de comportement pour faire à ce que les communautés soient prêtes à signaler tout acte d'exploitation et abus sexuels pour qu'ils aient moins d'impact préjudiciable envers les survivants. C'est comme l'explique ici Croyas Limousou, chef du projet d'action pour la protection de la femme à fond et environnement au Congo à Profec.
C'est un projet qui cible le bénéficiaire humanitaire. Là, je vois les déplacés internes, je vois les retourneux, les prestataires de soins de santé, les associations de femmes et de filles. Un accompagnement parce que tout le projet qui vient, c'est pour appuyer le gouvernement. Et on ne peut pas appuyer le gouvernement sans l'accompagnement du gouvernement. Nous nous sentons déjà être en mesure de descendre dans la communauté et d'exécuter le projet avec beaucoup de certitude et de sécurité.
Ce projet d'une durée de 3 mois sera exécuté par un consortium de 4 organisations humanitaires chapeautées par APROFEC avec le financement de UNFPA. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et dans l'extrême sud du Sud Kivu à Bendera, dans le territoire de Kalemie en province de Tanganyika, les acteurs de la société civile et les chefs coutumiers de la localité appellent le gouvernement congolais à prendre la relève de la sécurisation des personnes et de leurs biens à Bendera et ses environs avant le retrait des forces onusiennes dans la région. Ils l'ont déclaré hier mercredi à une mission conjointe d'évaluation de la MONUSCO qui s'est rendue sur place. La mission onusienne avait l'objectif d'étudier ensemble les modalités de l'appropriation des outils de protection des civils par les structures locales. Fiston Goma.
En l'espace de 2 semaines, 30 incidents sécuritaires caractérisés par de braquages et attaques armées ont eu lieu contre les civils dans le champ carré minier ainsi que sur les routes entre Kalemie, Kabambar et Fizi. Cette zone appelée Triangle de la Mort se trouve entre les provinces du Tanganyika, du Sud Kivu et du Maniema. La situation reste fragile. Les activités des groupes armés à Kutumba, Biloze, Bishambouke et les pygmées à Panapale restreignent les travaux des champs à moins de 5 km. Il se pose donc un problème de manque de nourriture. Au-delà de Mapanda, à 5 km de Bendera, 2 soldats FARDC et 1 motard ont été tués par des bandits armés la semaine dernière. Pour les chefs coutumiers de Makutano à Bendera, Bulundu, Kunde, Venant, La fermeture de la base temporaire opérationnelle de la MONUSCO serait prématurée tant que les forces de défense nationale ne sont pas prêtes à prendre la relève. Bendera abrite près de 7000 personnes. La société civile s'est dit préoccupée par cette fermeture. Pour l'instant, les casques bleus indonésiens de la MONUSCO effectuent des patrouilles conjointes motorisées ou pédestres avec les FRDC. Cependant, dans le cadre du retrait progressif de la MONUSCO de la province du Tanganyika, ce bataillon pourrait se retirer le 15 octobre prochain pour être redéployé en Ituri. Des retours de Bendera, Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
En bref, la Commission électorale nationale indépendante amorce le processus d'actualisation de son fichier électoral pour les élections. Hier mercredi, elle a déployé les agents à Maluku pour repérer les sites qui vont abriter les opérations de test des kits d'enrôlement des électeurs. À cette occasion, Denis Kadima a échangé avec des artistes, musiciens, comédiens, ainsi que certains délégués des partis politiques à travers le cadre des concertations. Il leur a demandé de sensibiliser la population à se faire enrôler. Selon la CENI, les opérations d'identification et d'inscription des électeurs, une fois lancées, dureront 3 mois. Pour ce faire, 30 000 machines avec imprimantes, batteries incorporées et un système solaire ont été commandées auprès de la société sud-coréenne Miru System. Un premier lot de ces kits a été livré par Alasseni pour un test qui a déjà commencé, notamment au Congo central et à Kinshasa-Maluku, dont les spécimens ont été imprimés. Au sud Kivu, je le disais au sommaire, des anciens travailleurs de la SNEL Bukavu qui s'estiment lésés dans l'exercice de leurs fonctions exigent d'être réhabilités dans leurs droits. Il s'agit en effet des travailleurs qui ont été écartés de la SNEL après avoir passé pourtant un contrôle physique. Une situation qui dure depuis plusieurs années. Le point avec Cynthia Bachizina Bizana.
Le calvaire de ces travailleurs commence juste après la guerre du RCD, lorsque la direction générale de la SNEL décide d'un contrôle physique pour détecter les agents fictifs. Témoignage de Ghislain Kahuli Kahimbi.
Avant la guerre RCD, nous étions les agents SNEL, où il proviendra une commission en provenance de Kinshasa pour venir voir exactement si nous existons, parce qu'avant la guerre, il y avait eu des morts, et après ces morts, où on avait envoyé une délégation encore en Kinshasa en 2019 pour voir réellement si nous existons et nous avons passé notre contrôle. Il y a nos confrères qui ont eu leur matricule, tandis que nous autres, on n'a pas eu nos matricules. Nous ont envoyé au niveau de l'inspection du travail et l'inspecteur avait trouvé bien que les SNEL nous intègrent dans nos droits. Jusqu'à là, la SNEL n'a pas respecté.
Contacté, le directeur provincial de la SNEL demande à ses travailleurs de prendre leur mal en patience. Jovi Moulemangabou.
Ce sont des journaliers qu'on utilisait à l'époque ici à la SNEL Bukavu. Ces problèmes sont connus à notre direction générale. On les avait dit d'attendre jusqu'à ce qu'il y aura un mouvement du personnel. On a beaucoup de cas pareils, il n'y a pas qui sont concernés par ce problème.
La balle est donc désormais dans le camp de la direction générale de la SNEL à Kinshasa qui doit statuer sur cette question. Cynthia Vachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et dans la province de la Tchopo, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 qui Kisangani Opala piétine. 3 mois après leur lancement, seulement 25 km ont été effectués alors qu'ils doivent couvrir 373 km dans un délai de 8 mois. Le constat est du député provincial du territoire d'Opala, Jean-Pierre Litema, au terme d'une visite de terrain le week-end dernier. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'élu provincial du territoire d'Opala dit avoir effectué cette visite de terrain afin de se rendre compte de leur réalité parce que, dit-il, les usagers se plaignent de la lenteur et la qualité des travaux. Arrivé sur les lieux, Jean-Pierre Litema fait un constat malheureux.
On ne respecte même pas la norme d'une réhabilitation d'une route nationale. On n'a pas vu les seigneurs, il n'y a pas d'limonite jetée là-bas et même l'écartement c'est moins de 5 mètres. Vraiment, il y a quelque chose sur le terrain qui ne marchait pas, je n'ai trouvé aucun véhicule sur le terrain. Ça signifie que c'est une histoire où la République a jeté son argent.
Le chef de brigade de l'office des routes déclare que les engins sont immobilisés au point kilométrique 27 ans. Si les travaux sont à l'arrêt, c'est à cause du manque de matériel propre à l'entreprise. Dieudonné Adipépé se tourne vers le gouvernement.
Nous demandons au gouvernement de nous doter nos matériels propres, nos machines appartenant à l'office des routes. Quand on avait nos matériels, on n'avait pas le problème des contrats, des histoires. On commençait les travaux à 6h ou 7h et on arrêtait tardivement.
Dans la recherche de voies et solutions à ces problèmes, Jean-Pierre Litema pense qu'une délégation doit être formée rapidement pour rencontrer l'autorité provinciale afin de les lui proposer. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La province éducationnelle Maniema 1 se lance dans la lutte contre les antivaleurs dans toutes les écoles et tous les bureaux gestionnaires. C'est dans ce sens que la campagne de sensibilisation dénommée Zéro Antivaleur a été lancée à Kindu ce jeudi dans toutes les écoles et tous les bureaux gestionnaires de cette province éducationnelle. La cérémonie s'est déroulée à l'enceinte de l'Institut Djouhoudi en présence de plusieurs intervenants de ce secteur. Florence Kizalunga.
Dans son discours, le prophète de Yoibo Kété Jean-Pierre a montré que tous les actes immoraux qui se passent dans les milieux scolaires et qui ne sont pas autorisés constituent les antivaleurs. Il s'agit notamment de
la tricherie, la fraude de classe, monnayage des points scolaires, l'harcèlement sexuel, violence sexuelle, torture corporelle des enfants, punition corporelle. Il y a aussi la vente des fournitures scolaires, la mise en quarantaine des élèves, en difficulté de paiement des frais, la sanction irrégulière des enseignants, la perception des frais illégaux. Donc la liste est longue.
Étant aussi victime des antivaleurs, les élèves s'engagent à tout dénoncer.
C'est longtemps que nous avons été victimes des antivaleurs. Cette fois-ci, comme nous avons eu une belle occasion de trouver aussi l'autorisation de dénoncer toutes sortes d'antivaleurs, vraiment nous sommes contents.
Nous nous engageons à dénoncer les antivaleurs. Il faut que les autorités nous protègent.
Le gouvernement provincial, pour sa part, garantit de son accompagnement. Annie Kabala, représentante du ministre.
Le gouvernement provincial s'engage à accompagner les autorités de l'EPST pour la réussite de cette campagne.
Pour cette première journée, 5 écoles ont été ciblées pour cette sensibilisation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans 8 semaines, la Guinée équatoriale vivra une nouvelle élection présidentielle. Le scrutin devait se tenir en avril de l'année prochaine. Il a été avancé au 20 novembre, en même temps que les législatives et les municipales. Une décision annoncée mardi 20 septembre au nom du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 43 ans et qui n'a pas dit s'il allait ou non se présenter pour un 6e mandat.
L'invité.
L'invité de ce journal est le professeur Faustin Toengao Lokundo, député national élu du territoire de Bassoukou. Il dénonce les tracasseries policières et militaires, l'exploitation illégale des ressources minières par des étrangers, l'absence de l'autorité de l'État ainsi que le manque des routes dans cette entité. C'est dans un entretien avec Jacques Moukonkoli.
Professeur Faustin Toengao, bonjour.
Bonjour Jacques.
Les vacances parlementaires ont pris fin. Pendant vos vacances dans la Tchopo, vous avez notamment séjourné dans votre fief électoral, le territoire de Bassoukou. D'emblée, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Plusieurs choses. Ce qui a retenu notre attention, c'est en fait le phénomène de tracasserie policière, militaire, administrative, dont se plaint la population chaque jour. Ce qui a retenu notre attention, c'est cette exploitation que nous continuons à qualifier d'irrégulière, d'illégale, d'anarchique, de ressources forestières et minières dans le territoire de Bassoukou, notamment par des exploitants étrangers, mais qui, contre toute attente, aujourd'hui se voient sécurisés dans cette entreprise par des militaires congolais. Ça nous étonne que les militaires puissent avoir comme tâche, comme mission d'aller sécuriser ceux qui viennent piller la République démocratique du Congo. C'est une situation qui nous met très très mal à l'aise. Ce qui nous a préoccupés, ce sont les routes. Toutes les routes se trouvent dans un état d'impraticabilité notoire, à tel point qu'il est impossible. Vous voyez, même quand la COP se tenait ici à Isangi, il était difficile que les visiteurs qui sont venus puissent prendre la route pour arriver à Yangambi.
Professeur, quand vous parlez de l'exploitation minière illégale dans le territoire de Bassoukou, avez-vous de preuves que ces exploitants miniers ne sont pas en règle vis-à-vis de l'État?
Oui, mais parce que nous aurions aimé que cela nous soit dit par le gouvernement de la République. Voyez, lorsque nous parlons le même langage avec les autorités du gouvernement, mais qui d'autre est mieux placé pour rassurer la population que ces exploitants étrangers sont là de manière régulière et ils sont en ordre vis-à-vis du gouvernement? Parce que moi, je cite la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui est allée sur le terrain pour constater l'irrégularité de cette exploitation.
Est-ce que vous avez eu à contacté les autorités compétentes pour dénoncer cet état des choses?
Alors, les dernières vacances, j'ai eu le privilège d'être reçu par le président de la République en présence du ministre Guy Loando. Je lui ai parlé de cette situation. Je pense que c'est ce qui a fait que la VPM descende sur le terrain pour se rendre compte de la situation. Mais malheureusement, rien ne change. La population est désabusée.
Et la présence de Chinois dans ce secteur, justement, c'est pour le développement de ces milieux.
Nous sommes favorables au développement, nous sommes favorables aux investissements étrangers, nous sommes favorables au partenariat avec les exploitants étrangers. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que ce soit un partenariat sincère, franc et légal. Alors, si les étrangers viennent, c'est vrai, ils doivent se mettre en ordre vis-à-vis de l'État congolais, mais la loi qui organise cette question recommande aussi à ce que ces exploitants puissent entrer en dialogue avec les communautés locales pour discuter des modalités pratiques de leur exploitation, notamment répondre, recevoir et répondre au cahier des charges présenté par la communauté locale.
Professeur, tout à l'heure, vous avez déploré le manque de l'autorité de l'État dans le territoire de Bassoko. Avez-vous des faits précis?
Oui, lorsque on circule dans les territoires de Bassoko, on se rend compte que cette autorité n'existe pas. Je prends pour preuve les chefs des groupements. Ce sont des autorités établies par l'État. Mais lorsque on voit un chef de groupement traîné par un policier, déshabillé par un policier, insulté par un policier, devant sa population, ça fait un problème. Lorsque les chefs de secteur qui sont là et sont fatigués par le poids de l'âge, ils ne sont plus respectés. Lorsque dans un territoire, il n'y a pas de tribunaux de paix. On assiste au développement du phénomène de la justice populaire. Lorsque dans un territoire, l'administrateur du territoire n'est pas en mesure de faire l'itinérance pour aller dans les secteurs et chefferie pour se rendre compte des problèmes qui se posent. Alors, comment peut-on parler de l'autorité de l'État dans les territoires de notre province?
Par rapport à ces constats, quelles sont les principales recommandations que vous pouvez formuler à l'autorité compétente?
Il faudrait qu'effectivement l'autorité de l'État soit rétablie. Il faudrait qu'on puisse rendre opérationnel le tribunal de paix. Il faudrait qu'on puisse renouveler les autorités, les chefs de secteur, les chefs de chefferie, pour qu'on ait une administration capable de mobiliser la population au travail.
Professeur Faustin Toingao, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, député national Faustin Toingao, qui s'entretenait avec Jacques Mokonkole. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.